Vous écoutez France Culture.
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la technique, Cédric Châtelus.
À la lecture, Georges Kless. Et à la réalisation, François Connac, rien de moins. Vous êtes un citoyen exemplaire. Vous respectez la loi, vous payez vos impôts, vous décélérez au feu orange, vous aidez les aveugles à traverser la rue, vous cédez votre place aux vieilles dames du bus. Imaginez maintenant que nul ne vous regarde. Imaginez un monde sans témoins. Seriez-vous le même ? Imaginez que vous soyez invisible, que vous bénéficiez de l'impunité garantie par l'invisibilité. Quelle raison auriez-vous dès lors d'être irréprochable ? Que reste-t-il de la justice quand on supprime récompense et punition ? L'homme est-il fidèle à la justice séparément des bienfaits qu'il en attend ? Ou sa conduite n'est-elle que l'autre nom du calcul de son intérêt ? Pour y répondre ou ne pas le faire, il faut en revenir à la République de Platon.
C'était, sachez-le, un pâtre ou gage du prince qui régnait alors sur la Lydie. À la suite d'une pluie abondante et d'un tremblement de terre, la terre se déchira sur un point et un gouffre se produisit à l'emplacement de son pacage. Ce que voyant, plein de surprise, il y descendit. Et, entre autres merveilles ordinaires au conte, il aperçut un cheval de bronze creux avec des fenêtres qui lui permirent, en se penchant à l'intérieur, de voir qu'il s'y trouvait un cadavre. C'en était un, évidemment, d'une taille surpassant celle d'un homme, et sans rien d'autre sur lui que, à la main, une bague d'or. La lui ayant retirée, il remonta à la surface. Or, à l'époque de la réunion accoutumée des pâtres pour faire chaque mois au roi un rapport sur ce qui regarde les troupeaux, il s'y rendit, portant la bague en question. Mais, une fois assis avec les autres, il lui arriva de tourner par hasard vers lui le chaton de la bague au-dedans de sa main. Or, à peine cela avait-il eu lieu, qu'il devint invisible pour ceux qui étaient assis à ses côtés, qui se mirent à parler de lui comme de quelqu'un qui s'en était allé. Il en fut surpris, et, ayant recommencé de tâter discrètement la bague, il en tourna le chaton en dehors. Et une fois qu'il l'eut tourné, il redevint visible. Ayant ensuite réfléchi là-dessus, il met à l'épreuve la propriété de sa bague. Et les résultats répondent à son attente. Quand il tourne en dedans le chaton, il devient invisible. Visible quand c'est en dehors. Après avoir ainsi reconnu que l'effet était infaillible, il s'introduit dans la délégation qui se rend auprès du roi, dont, une fois arrivé, il séduit l'épouse. Puis, avec la complicité de celle-ci, c'est au roi qu'il s'attaque. Il le tue et s'empare du pouvoir. Ceci dit, supposons qu'il y ait deux bagues de ce genre. Que l'une, le juste, se la passe au doigt et l'autre, l'injuste. Il ne se trouverait pas, peut-on croire, un seul homme au cœur d'assez bon acier pour demeurer dans la justice, pour avoir le courage de se tenir à distance de ce qui appartient à autrui et pour n'y pas porter la main alors qu'il lui est possible d'emporter du marché en toute sécurité ce qui lui plairait, pénétrant dans les maisons d'y avoir commerce avec qui lui plairait, de mettre à mort aussi bien que de libérer de ses chaînes qui lui plairait, bref, de tout faire égal d'un dieu dans la condition humaine.
J'aimerais tellement le tenir une dernière fois.
Ah ! Excuse-moi de t'avoir mis cela sur les épaules, mon petit. Je suis désolé que tu dois porter ce fardeau. Je te demande pardon pour tout. Ah.
Alors, bonjour Raphaël.
Bonjour déjà. Paola.
Une question un petit peu prévisible, mais pourquoi ce rapprochement entre l'anneau du Seigneur des Anneaux et le mythe de Cygès qui est dans le livre 2 de la République.
De Gigès.
Ah oui.
Vous avez le mythe de Sisyphe et le mythe de Gigès.
Oui, le mythe de Gigès. Je m'en suis même pas rendu compte.
Eh bien, pourquoi pas se rapprocher. C'est marrant, non? le Seigneur des Anneaux. Moi, c'est la première fois en lisant le mythe de Gigès que je lis depuis l'année de terminale à peu près. C'est la première fois en lisant ce mythe pour les besoins de cette émission que l'idée me vient d'une possible filiation entre Platon et Tolkien. Donc, j'ai pas résisté à l'envie de donner à entendre un extrait du très bon film que vous n'aimez probablement pas, de Peter Jackson, c'est la communauté de l'anneau.
Est-ce que ça va plus loin jusqu'à un rapprochement avec un anneau?
Oui, je crois, dans la mesure où, d'abord, les conditions de la découverte de l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux ressemblent d'assez près à ce que Platon décrit. Et je ne peux pas penser que Tolkien n'ait pas lu La République, justement, et ne se soit pas inspiré du contexte de cette découverte, ce tremblement de terre, ces bruits de tonnerre, cet homme énorme, enfoui, cadavérique, avec cet anneau à son doigt, etc. Bon. Le principe de l'anneau du Seigneur des Anneaux, c'est que il est double. C'est un agneau, un agneau. Oui, c'est un agneau. Justement, c'est les autres qui sont des agneaux. C'est un anneau pour les agneaux. C'est un anneau pour les gouverner tous. Et la première personne que cet anneau gouverne, c'est celui qui le possède, c'est celui qui le détient. Car celui qui le détient remplace toute forme d'envie dans la vie, de but dans l'existence, de destination, par la simple jouissance de la possession de cet anneau. Et alors c'est intéressant parce que cet anneau-là, on pourrait se dire, tiens, voilà quelque chose qu'on désire même quand on le possède. Or, la chose qu'on désire quand on la possède, vous savez comme moi, Paola, c'est le souverain bien. En général, dans nos vies, il suffit qu'on possède quelque chose pour avoir envie d'autre chose. Or, voilà un objet dont les détenteurs n'aspirent à rien d'autre qu'à persévérer dans leur détention de l'anneau. Donc on pourrait se dire, voilà, ils le désirent, et ils le désirent même quand ils l'ont. Mais le problème de l'anneau, et le personnage de Gollum pour ça est très intéressant, parce que c'est celui qui en est le plus longtemps le détenteur, et qui est rendu fou, qui se consume dans le désir de cet anneau qu'il possède pourtant, et qui, à la limite d'ailleurs, souffre moins de son absence que de sa possession, dans la mesure où la possession est vaine. L'anneau, il le regarde et il l'appelle « mon précieux ». Voilà. C'est tout ce qu'il peut en faire. C'est le grand paradoxe d'une activité ou d'un bien qui est le seul objet de votre désir quand bien même vous le possédez, mais dont la jouissance ne correspond à rien en réalité, ne correspond qu'à la possession de cet objet. Donc c'est un désir maladif déguisé en souverain bien. À la façon, vous savez, vous avez vu L'Âge de glace, Paola?
Pas tous.
Bon, vous voyez le personnage de Scrat.
Oui.
Bien. Le personnage de Scrat passe les 4 âges de glace à courir après un gland. Il court après un gland, il est d'une résistance absolue, il est totalement indestructible. C'est Dieu, Scrat. Hein. D'ailleurs, dans l'âge de glace 4, c'est lui qui façonne la plaque terrestre et les continents, toujours à la recherche, non pas de son anneau, mais de son gland. Le personnage de Scrat court après un gland dont il ne sait pas quoi faire quand il le possède. Quand il le possède, il danse avec, il tourne autour, il essaie de l'enfoncer dans le sol. En général, c'est le moment où il provoque un tremblement de terre. Mais il ne sait pas quoi en faire. Et donc, toute son histoire consiste à ne pas perdre quelque chose dont il ne sait que faire quand il le possède. Bon. Et je crois qu'on a là un lien peut-être plus intéressant qu'anecdotique. En tout cas, moins anecdotique avec le texte de Platon. Dans la mesure où la détention de l'anneau par le berger lydien Gigès a pour effet de susciter en Gigès le désir de ce qu'il ne faudrait pas désirer d'un point de vue platonicien, c'est-à-dire en tout cas le désir de ce qu'on peut désirer, mais de ce qu'on ne doit pas désirer aux dépens de la justice elle-même, et le désir de ce qu'il est mauvais de désirer dans la mesure où ce ne sont que des choses que nous désirons. C'est du pouvoir, c'est le corps de la reine. C'est-à-dire, ce ne sont que des possessions. C'est le désir d'un avoir. Et il y a là, me semble-t-il, un point commun entre ces deux anneaux auxquels les deux individus sont soumis, Gigès comme les détenteurs successifs de l'anneau chez Tolkien, ils sont soumis, ils sont les premiers esclaves du pouvoir dont ils disposent. Et ils sont, au fond, enfin, maîtres de l'univers sans l'être d'eux-mêmes, ils sont seuls rebelles à ce pouvoir suprême. Il y a là, je crois, quelque chose d'assez fort, au fond, en termes de critique d'une possession qui soit est à elle-même sa propre fin, mais verse dans la stérilité absolue, puisqu'on ne fait rien de l'anneau comme on ne fait rien du gland, soit débouche sur des moyens accrus, comme c'est le cas de Gigès, qui est donc rendu invisible par cet anneau, et par là même développe en lui, à la façon dont l'anneau du Seigneur des Anneaux corrompt ceux qui le détiennent, au sens où ils ne veulent plus s'en séparer, ils finissent par sacrifier amis, frères, sœurs, pères, mères, etc., pour garder le précieux, corrompt chez son détenteur toute forme de possibilité de justice et fait passer avant ça le tout petit moi et ses calculs dérisoires.
Je suis d'accord, en fait, parce que ça me semblait étrange au départ. Je me disais, si c'est qu'anecdotique, pourquoi ? En plus, vous savez que moi, l'héroïque fantasy, c'est pas trop mon truc, mais bon, ça regarde que moi. Mais donc, pour revenir au texte de Platon, un petit peu, donc à la République 2 et à la question...
Voilà, c'est le livre 2 de la République, tout à fait.
Mais à la question centrale qu'on retrouve jusqu'à la République 10, c'est la question de la justice. Donc, on avait peut-être paru s'en éloigner un petit peu avec ces deux anneaux, mais en fait, pas tant que ça, parce que le mythe qui est raconté par Glaucon, justement, a pour fonction de savoir si la justice est justement quelque chose qu'on veut, comme vous le disiez, pour elle-même, en fait, qui n'a pas besoin de récompense, qu'on désire juste comme chose en soi. Mélanger un vocabulaire kantien et un vocabulaire platonicien, c'est un peu
mais
étrange.
Mais vous n'avez pas tort de le faire ici, Paola. Vous n'avez pas tort de l'employer. Il n'est pas innocent que vous, lectrice de bonne foi du livre 2 de la République, ayez recours pour en expliquer le contenu ou le présenter à nos auditeurs à un vocabulaire kantien. Parce qu'au début de ce livre 2, il dit ceci. « Dis-moi, ne te semble-t-il pas qu'il est une sorte de bien que nous recherchons, non pas en vue de leurs conséquences, bien est au pluriel, hein, non pas en vue de leurs conséquences, mais parce que nous les aimons pour eux-mêmes, comme la joie et les plaisirs inoffensifs, qui, par la suite, n'ont d'autre effet que la jouissance de celui qui les possède. » Et vous voyez comme cette proposition peut être à double tranchant. Aimer quelque chose pour soi-même, c'est à la fois le souverain bien, c'est ce dont la nature de bien, pour parler le Spinoza, ce dont la nature de bien n'est pas douteuse, mais ce dont l'obtention est difficile, bon, c'est, pour parler le Kant, une sorte d'impératif catégorique, c'est-à-dire une décision débarrassée du calcul de ses conséquences. On n'est pas dans l'impératif hypothétique, on ne rend pas le portefeuille au type qu'il a oublié sur votre étal parce que du coup on va fidéliser le client. Non, on lui rend le portefeuille parce que c'est pas le mien et qu'on a toutes les raisons de le rendre à l'autre. Disons que la seule raison qui prévale, c'est que c'est pas le mien et qu'il faut le rendre parce qu'il faut le rendre, si vous voulez. Donc, il y a vraiment ici deux possibilités. Et attachons-nous à la seconde, à la première, c'est-à-dire à celle à l'hypothèse d'un souverain bien, au fond, c'est-à-dire à l'idée qu'on puisse vouloir quelque chose pour cette chose-là. Cette disposition du caractère, cette aptitude à désirer quelque chose pour elle-même, séparément des récompenses ou des punitions qui nous menacent ou qu'on nous fait miroiter, cette possibilité-là, elle est contredite, cette éventualité-là, cette hypothèse, elle est contredite par le récit du mythe de Gigès, qui présente un individu, ni pire ni meilleur que vous et moi, dont les conditions d'existence étant modifiées par la détention de l'anneau, le comportement devient celui d'un brigand. C'est donc une façon de dire que le désir de justice, ou que le fait d'être juste, est soumis à des contingences qui n'ont rien à voir avec le caractère absolu de la justice, tel que Platon, justement, prétend le construire, l'élaborer dans la République, et tel que Platon prétend que les hommes peuvent en avoir le désir, comme ils ont un naturel philosophe. L'expression apparaît dans le livre 4.
D'accord, et donc cette transformation de ce type, ce berger, plutôt un type bien, etc., qui devient un brigand, ça pose un petit peu la question,
presque plus que de la justice, de l'identité. Et enfin, au moment où je dis ça, je me rends compte que, enfin, je repense à un moment dans la République où une des définitions de la justice que donne Socrate, c'est celle justement que justice et identité se rejoignent, puisque être juste, c'est être conforme à soi-même. Et donc.
Ou fidèle à soi-même.
Ou fidèle
oui.
à soi-même.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est intéressant que vous parliez d'identité quand on parle d'invisibilité. Puisque si, situons-nous dans la perspective où l'identité d'un individu n'est que la concrétion des regards qui sont posés sur cet individu. Je suis ce que les gens voient de moi. Qui êtes-vous, Paola ? Je suis étudiante, en cagne, je prépare un concours, etc., etc. Toute détermination extérieure de votre personnalité. J'aime les films d'auteurs ennuyeux, et la philosophie et le rock'n'roll. Enfin, bon, je m'arrête là. Mais autant de détermination en un sens extérieur, autant de caractéristiques de votre personnalité que d'autres pourraient désigner. Si vous étiez invisible, seriez-vous encore tout cela. Le fait que cette question d'identité apparaisse est intéressant. Le fait que vous la fassiez surgir dans la discussion est important puisqu'il est question de ce qui reste d'une identité quand on devient invisible. Tenez, le film de Paul Verhoeven, Hollow Man. Hollow Man.
Non.
L'homme invisible. Non, non. C'est avec Kevin Bacon, c'est très bien. C'est très bien. C'est beaucoup mieux d'ailleurs que les premières versions de l'homme invisible. On va entendre ici un monologue où l'homme invisible... Alors, pour mémoire, c'est un type, c'est un super scientifique, un type très fort, Kevin Bacon, il est très fort, il est très bon, c'est le Michel-Ange de la science. Bon, et il met au point un truc qui lui permet de se rendre invisible. Le type, par ailleurs, est un peu soupolé, mais il est plutôt sympathique et gentil, donc bon, il n'y a pas de problème. Jusqu'au moment où il s'applique à lui-même la méthode, le sérum qui rend invisible, et à partir de là, comme ça marche, malheureusement, il devient un monstre. Écoutez-le.
Il n'est pas ici.
Ça suffit, Sébastien. La fête est terminée. Dis-nous où tu es.
Désolé, Linda, mais je ne peux pas vous laisser me livrer.
Sébastien, dis-moi où tu es.
Oh, tu ne peux pas savoir ce que ça apporte. Le pouvoir, la liberté. Je ne peux pas abandonner ça.
Quels que soient tes projets, après le téléphone, l'ascenseur, ça ne donnera rien. Ils savent pour toi.
Non. Ils ne savent pas. Kramer est mort avant de le dire à âmes qui vivent. Je m'en suis assuré.
Tu es conscient de ce que tu dis ?
Entre nous, Matt, c'est pas croyable ce qu'on peut faire quand on n'a plus besoin de se regarder dans un miroir.
Sébastien !
Au revoir, Linda.
Sébastien ! Oh, merde !
La question qu'on peut se poser en écoutant donc cet extrait de film que je n'ai pas vu, mais que je découvre
c'est
là.
C'est un film sur l'homme invisible, Paola. Vous n'avez rien perdu en ne le voyant pas.
Donc, cet extrait-là et le mythe de Gigès, c'est de savoir si l'invisibilité n'est qu'une occasion pour que le caractère donc, de brigand se révèle, etc. Ou est-ce qu'il n'est qu'une occasion, donc ou est-ce qu'il transforme vraiment ? C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire, est-ce que...
Est-ce qu'on devient méchant en voilà. étant invisible ? Ou est-ce qu'être invisible révèle le méchant qu'on était déjà ?
Voilà, c'est ça. Parce que
mais si vous me permettez, je ne suis pas sûr que la question se pose en ces termes. Il faut plutôt le prendre dans l'autre sens. C'est plutôt, non pas est-ce qu'on devient méchant si on devient invisible, mais est-ce qu'on reste bon quand on est invisible ? Et ça n'est pas de dire est-ce que l'invisibilité révèle une méchanceté qui était déjà latente, mais est-ce que l'invisibilité détruit une bonté qu'on prenait pour notre nature véritable ? C'est plutôt en ces termes que se pose la question. C'est-à-dire, comme le dit le personnage incarné par Kevin Bacon, Sébastien, comme il le dit, on n'est plus la même personne quand on ne se voit pas dans un miroir. On n'est plus la même personne quand on a ce pouvoir, quand on a cette liberté. Donc, notre identité n'est jamais... Parce que derrière, c'est une décision terrible. C'est un débat dont l'enjeu est considérable. Notre identité, souvenez-vous de ce qu'on avait dit à propos de Clément Rosset, Paola, notre identité est-elle autre chose que ces caractéristiques, ces dispositions du caractère qui nous viennent des circonstances de la vie et dont l'addition, la juxtaposition, la sédimentation, à la façon des alluvions qui forment du sol, si vous voulez, dont la sédimentation finit par produire quelque chose qu'on prend pour un moi substantiel alors qu'il n'en est rien et qu'il suffit d'un tsunami psychologique, de la découverte qu'on peut être invisible ou d'un pouvoir qu'on n'avait pas avant, pour balayer tout ça d'un revers de main. Au fond, sommes-nous quelque chose, ou bien ne faisons-nous que devenir ce que les circonstances de la vie font de nous? Derrière ce débat sur la justice, il y a effectivement une réflexion sur ce qui reste de nous quand tout change. Et si quelque chose reste quand tout change? Et l'enjeu est double. Il faut à la fois préserver l'identité de quelqu'un, mais préserver l'identité de quelqu'un, c'est préserver ce qui le constitue, c'est-à-dire, en l'occurrence, le fait d'être juste, de se conduire conformément à la justice. Justice dont, quand même, il faut rappeler qu'à l'heure où ils en parlent, ils ne l'ont toujours pas définie dans la République.
Oui, et ça viendra après. Oui. Mais où, par exemple?
L'entreprise de définition objective de la justice, si j'ai bonne mémoire, la première définition de la justice arrive au livre 4. En revanche, le débat porte sur la justice selon un procédé typiquement platonicien. Souvenez-vous, on en avait parlé à propos du thé et tête, Paola. Je renvoie nos auditeurs attentifs à cette émission. Un instant, un retour sur ce dispositif platonicien récurrent dans les dialogues. On discute, et puis soudain, Socrate se réveille en disant « Attendez, depuis tout à l'heure on parle et on n'a pas défini ce dont on parlait. » Bien. Et donc il faut définir ce dont on parlait. Et donc il y a toujours cette découverte qui est toujours rétroactive. Donc on est d'abord plongé dans un dialogue, et puis il y a une reprise chez Platon. « Attends, on parle de la vertu, mais on n'a pas dit ce que c'était. On parle de la justice, on n'a pas dit ce que c'était. On parle de la beauté, on n'a pas dit ce que c'était. » Il faudrait, en bon ordre et en bonne logique, commencer par dire ce qu'est l'objet dont nous parlons avant de prendre le risque d'en parler. Ce qui est tout à fait faux. Enfin, je veux dire, il n'est pas nécessaire de savoir ce qu'est la beauté pour savoir, pour discuter de la beauté de quelque chose. Mais d'ailleurs, on serait bien en peine s'il fallait savoir ce qu'est la beauté pour en parler. Personne n'en parlerait. Et peut-être idem pour la justice, en un sens. Il y a, dans la discussion elle-même, nous manipulons à notre insu des catégories fondamentales, c'est encore plus vrai dans un film hollywoodien, des catégories fondamentales qui sont tellement implicites qu'on serait bien en peine de les définir. Et l'entreprise de définition est toujours postérieure, toujours rétrospective chez Platon, même si elle se présente comme un préalable. Et alors, ça se redouble dans La République du fait que le livre 1 de La République, dont le moment de bravoure est une engueulade, d'une jubilatoire.
Entre Trasimaque et Socrate.
Oui, entre Trasimaque et Socrate. Au terme de cette engueulade, Trasimaque baisse les armes. Hein, enfin, Trasimaque a perdu le combat. Socrate l'expédie en un dialogue. Il s'en va furieux, mécontent, mais après avoir reconnu qu'il s'était trompé. Après avoir reconnu qu'il s'était trompé, puisque Trasimaque part dans un éloge de l'injustice. Bon. Et Socrate n'a aucun mal à déconstruire le propos de Trasimaque tout en se moquant de lui abondamment, etc. Et Trasimaque est extrêmement violent. Hein. Il propose à un moment de lui casser le crâne pour lui enfoncer les idées dans la tête. Il dit à Socrate qu'il veut bien discuter avec lui à condition qu'on le paye, façon pour Platon de dénoncer la vénalité du prolétariat de la philosophie qui existait déjà à l'époque, c'est-à-dire du prof particulier, au fond, qui vient vous apprendre. Alors à l'époque, c'était la sophistique. Aujourd'hui, c'est le programme de terminale. Mais donc il y a... le livre 1 s'achève sur le premier regret de Socrate, qui est de n'avoir pas évoqué, de n'avoir pas dit ce qu'était la justice, d'en avoir discuté sans avoir dit ce qu'elle était. Il dit ceci, hein, à la toute fin du livre 1, il dit « Il me semble que j'ai fait comme les gourmands, qui se jettent avidement sur le plat qu'on leur présente, avant d'avoir suffisamment goûté du précédent. De même, avant d'avoir trouvé ce que nous cherchions au début, la nature de la justice, je me suis lancé dans une digression pour examiner si elle est vice ou ignorance, ou sagesse et vertu. » Un autre propos étant survenu ensuite, à savoir si l'injustice est plus avantageuse que la justice, je n'ai pu m'empêcher d'aller de l'un à l'autre, en sorte que le résultat de notre conversation est que je ne sais rien, car ne sachant pas ce qu'est la justice, encore moins saurais-je si elle est vertu ou non, et si celui qui la possède est heureux ou malheureux. Et donc vous voyez, c'est intéressant, Paola, parce que le regret de Socrate, c'est le regret d'avoir été mis sur la défensive par un orateur belliqueux, par un interlocuteur agressif, et donc d'avoir été privé, au fond, d'une définition nuancée, subtile, d'une recherche de la justice, d'une calme recherche de la justice, d'en avoir été privé parce qu'il était prisonnier de la défense de la justice, à la façon dont quelqu'un, par exemple... Prenez Tocqueville, qui est le plus grand critique de la démocratie et des méfaits de la démocratie. Mettez-le face à quelqu'un qui abomine la démocratie. Tocqueville sera contraint de prendre la défense de la démocratie. C'est-à-dire de mettre sous le boisseau les critiques pertinentes qu'il pourrait formuler parce que son interlocuteur prendrait ça immédiatement comme une reconnaissance de ses propres arguments. On ne peut jamais discuter avec quelqu'un qui vous met sur la défensive. Moi, je me souviens un jour... alors. Pardonnez-moi cette comparaison ridicule, mais je me souviens un jour comme ça que Je devais remplacer au pied levé quelqu'un qui devait défendre Michel Onfray contre le livre d'un marxiste sur ce qu'il appelait la misère du nietzschéisme, qui était un livre tout à fait caricatural à mon sens, qui réduisait le nietzschéisme à une pensée d'extrême droite. Enfin, c'était un livre vraiment caricatural. Et je m'étais retrouvé. Et ce livre s'indignait notamment de la proposition de Michel Onfray de penser un nietzschéisme de gauche. Bon. Et si vous voulez, l'idée même de parler d'un nietzschéisme de gauche, à mon sens, ça n'engage que moi ou ne désengage que moi, n'a aucun sens. Bon. Indexer Nietzsche sur une pensée politique rigide, ou plus exactement sur un courant politique précis, me semble un contresens sur sa pensée, sur son ambition. Mais dans le même temps, le propos de mon interlocuteur était tellement caricatural que j'étais mis en situation de défendre, moi, un propos auquel je n'adhérais pas. Mais les raisons pour lesquelles je n'y adhérais pas étaient tellement différentes de celles que mon interlocuteur avançait que j'étais moi-même privé de le faire, si vous voulez. Que j'étais moi-même privé de rentrer dans une éventuelle nuance. Et il se passe ici, encore une fois, toute mesure gardée, la même chose. C'est-à-dire que Socrate est mis dans la position de défendre quelque chose sans avoir pris le temps de le définir, sans être rentré dans le détail, c'est-à-dire qu'il a été mis sur la défensive, façon pour Platon de montrer combien Socrate est d'abord tout terrain et surtout à quel point il est essentiel de définir les choses avant de pouvoir en parler.
Alors il faut faire valoir la différence entre Glaucon et Thrasymaque parce que c'est pas du tout le même caractère et ce qu'on remarque rapidement en lisant donc, le livre 2, c'est à quel point Glaucon est plus délicat, je trouve, hein, ça n'engage que moi, mais il n'a pas de certitude lui-même, il le dit, qu'il ne sait pas vraiment, qu'il ne croit pas en ce qu'a dit Thrasymaque, mais qu'il demande qu'à être convaincu par Socrate, donc il ne sait pas, et d'où, c'est pour cela qu'il a recours à la fiction, etc., pour mettre en scène, parce que lui-même n'a pas de certitude à asséner.
C'est le frère de Platon, Glaucon.
Voilà.
C'est le frère de Platon. C'est un personnage intéressant. Bon, d'abord parce que c'est l'interlocuteur de Socrate qui court sur à peu près l'ensemble de la République. Et c'est un personnage qui, dans ce drôle de texte qu'est la République de Platon, c'est-à-dire un texte où il y a le Platon de la meilleure eau philosophique, c'est-à-dire celui qui vraiment vous empêche de vous endormir sur vos certitudes et donc vous aide à penser. Vous avez le meilleur Platon dans la République. Comme le pire, à mon avis, c'est-à-dire celui qui, pour le coup, loin de ne rien savoir, détient la vérité, vous présente la cité idéale, dont il exclut les poètes, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, Paola, dont il exclut, mais pas seulement les poètes, hein, dont il légifère sur les pratiques, où il légifère sur les pratiques sexuelles, sur la musique à donner à entendre, etc. Bon, il y a l'un et l'autre, il y a ces deux dimensions du platonisme, entre guillemets, c'est-à-dire l'ambition de calmer l'arrogant en lui montrant que ce qu'il prend pour une vérité n'est jamais qu'une conviction, c'est-à-dire une connerie. C'est pas la teneur de sa conviction qui est une connerie, c'est le fait qu'il en fasse une conviction qui est une connerie, qui le rend bête. De la même façon que le peuple, dit Pascal, peut parfois dire vrai, mais même quand il dit vrai, il a tort car il ne sait pas pourquoi il dit vrai. Donc, il y a le premier Platon, le Platon que nous aimons, le Platon aporétique, celui qui vous fait réfléchir et celui qui vous laisse plein de questions quand vous sortez de la lecture de ses dialogues. Et il y a l'autre Platon, celui qui dit la vérité, qui détient la vérité. Et le personnage de Glaucon s'intègre harmonieusement, je dois dire, à ce double dispositif. Dans la mesure où il est de temps en temps dans la République un narrateur, celui qui joue le jeu consistant à défendre une thèse à laquelle il n'adhère pas forcément. Puisque Glaucon, dans le livre 2, reprend les arguments de Thrasymaque et soumet à Socrate un certain nombre d'hypothèses, des hypothèses auxquelles lui-même se défend mollement d'adhérer, d'ailleurs. Donc il est tantôt celui-là, tantôt, quand il a affaire à un Socrate véridisant, c'est-à-dire désireux de vérité ou détenant la vérité, alors là, il devient une sorte de carpette qui dit « Mais oui, vous savez, comme on a souvent dans les dialogues de Platon aussi, c'est tout à fait comme tu dis, Socrate, assurément, oui, bien sûr, dispositif classique, au fond, puisque Platon, de cette manière, met le lecteur, contraint d'une certaine façon le lecteur, à, comme Glaucon, tout comme Glaucon, approuver, boire les paroles de Socrate et approuver ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est une façon, du coup, pour Platon, d'enfoncer dans l'esprit de son lecteur l'argumentaire de Socrate, mais c'est un dispositif quasi seulement rhétorique.
Pour en revenir à la justice, parce que bon, faisons un petit peu, du coup, faisons comme Platon, hein. J'ai envie de vous demander quand même, mais qu'est-ce que la justice, comme l'entend Socrate ou comme l'entend Platon? Parce que ça recouvre des choses assez vagues, en fait, puisqu'on c'est pas vraiment une justice sociale, ça a pas l'air d'avoir trop à faire avec les lois, ça a plutôt l'air personnel, mais parfois ça s'étend donc à la cité, donc c'est un petit peu... On ne sait pas vraiment ce qu'il entend par justice. En tout cas, dans le livre 2, on essaie juste de savoir si c'est quelque chose qu'on désire pour lui-même ou qu'on désire pour ses conséquences.
Un jour, j'ai entendu un excellent platonicien à qui je posais la question, la même question que vous, se gratter la tête. Je l'ai entendu se gratter la tête. Il était chauve. Me répondre avec... après avoir beaucoup hésité... Et me répondre la chose suivante, que donc je vous soumets, qui est qu'au fond, la justice, c'est l'art de trouver sa place, de connaître sa place, et d'y exceller. La justice, chez Platon. La justice, elle est là. Et je dois dire que cette définition, à mesure plus je fréquente ce texte, ça n'est jamais le même texte quand on le relit, c'est un texte kaléidoscopique, compliqué, difficile, extrêmement long. Mais cette définition-là de la justice ne s'est jamais démentie. Alors, je n'ai peut-être pas assez lu ce texte pour y trouver un contrepoint, mais cette définition-là de la justice ne s'est jamais démentie. J'ai toujours eu le sentiment que, chez Platon, la justice était dans le fait, justement, de trouver sa place et de ne pas être dans le chaos d'une existence indécise. L'existence, par exemple, qu'il décrit au livre 8 de la République, quand il parle de l'homme démocratique.
Il vit donc, reprit-je, au jour le jour, et s'abandonne aux désirs qui se présentent. Aujourd'hui, il s'enivre au son de la flûte, demain, il boira de l'eau claire et jeûnera. Tantôt il s'exerce au gymnase, tantôt il est oisif et n'a souci de rien. Tantôt il semble plongé dans la philosophie. Souvent, il s'occupe de politique et, bondissant à la tribune, il dit et il fait ce qui lui passe par l'esprit. Lui arrive-t-il d'envier les gens de guerre? Le voilà devenu guerrier. Les hommes d'affaires? Le voilà qui se lance dans le négoce. Sa vie ne connaît ni ordre ni nécessité, mais il l'appelle agréable, libre, heureuse, et il lui reste fidèle. « Tu as parfaitement décrit, dit-il, la vie d'un ami de l'égalité. »
L'homme démocratique se caractérise justement par son absence de substance, par le fait qu'il ait troqué sa substance contre l'ambition, en définitive, c'est-à-dire contre le goût des richesses ou des avantages garantis à celui qui saurait en bénéficier dans un régime démocratique, justement. Platon fait la guerre à ceux qui ne croient pas en la vérité, comme il fait la guerre à ceux qui considèrent que chacun peut tout faire. L'idée n'est pas celle-là. D'où cette fameuse tripartition qu'on trouve dans l'individu, entre l'esprit, le cœur et le bas-ventre, et qu'on retrouve dans la cité entre les philosophes rois, les gardiens et les paysans, ou les fermiers, les agriculteurs, si vous voulez. C'est la même tripartition. Il s'agit, dans tous les cas, de trouver sa place. Et un agriculteur, celui qui est en charge de la nourriture, n'a pas à être instruit plus que de raison, aux yeux de Platon. De même, les gardiens doivent recevoir une éducation spécifique. Il faut... qu'on intègre les gens, qu'on assigne les gens à une place et qu'on les y maintienne. Là est en un sens la justice, car il s'agit pour chacun d'exceller dans sa fonction propre. Ce qui permet de penser deux choses. La première, c'est qu'évidemment Platon est un penseur de la hiérarchie. Et ce texte, La République, dont bon nombre de communistes, à commencer par Alain Badiou, se gargarise et qu'ils brandissent quasiment comme un viatique, comme une solution, comme un remède, comme une référence. Ce texte-là, ce grand texte-là, brandi par nombre de communistes, mais pas seulement, par toute forme de tempérament un tout petit peu ou carrément tyrannique. Ce texte-là est également un éloge de la hiérarchie. Et le deuxième point, c'est que cet éloge de la hiérarchie ne s'accompagne d'aucun jugement de valeur. Il n'y a pour Platon en un sens, pas de jugement de valeur, c'est-à-dire qu'il n'est pas mieux d'être philosophe que d'être paysan. Ça n'est pas mieux, c'est juste plus haut, c'est tout.
Mais justement, en fait, vous m'avez un petit peu enlevé les mots de la bouche parce que c'est, j'allais repartir sur ça. Je pensais à la phrase de Marx très très connue, chasser le matin, pêcher l'après-midi, etc. Donc cette sorte de mouvance, de pouvoir faire plusieurs choses, on pourrait se dire quand même que avec cette idée-là, on rentre un petit peu dans un fixisme, quelque chose de bloqué. Si, et après tout, même de presque de contraire, prenons l'exemple de quelqu'un qui serait né pour être orateur, un excellent orateur et donc un sophiste d'une certaine manière. Sa place serait d'être sophiste. Les sophistes seraient nécessaires. Alors s'il y en a qui excellent, Gorgias excelle dans le sophisme. Alors il est à sa place, il doit continuer.
Alors la différence entre un sophiste et un cordonnier, c'est que la sophistique n'est l'art de rien du tout. La sophistique n'est l'art de rien du tout, puisque c'est un art qui s'adapte à toutes les dispositions, à toutes les circonstances, à tous les métiers, au fond, pour permettre à chacun de donner aux autres le sentiment qu'il excelle dans cette discipline où il ne connaît rien. Vous savez, c'est comme on dit en Cagne, on vous apprend à parler de tout. Oui, bon, effectivement, on nous apprend à parler de tout en Cagne. C'est une formation sophistique, en un sens. On nous apprend à réagir à un sujet qu'on n'a pas préparé. On nous apprend, en un sens, à parler de tout. Il y aurait 1000 occasions, et on les aura dans le Gai Savoir, de faire l'éloge de l'apparence, du chatoiement sophistique et de la conception de la démocratie qui va avec. Mais restons platoniciens, puisque nous sommes chez Platon ici, pour comprendre que la différence entre un sophiste et un cordonnier, c'est qu'un cordonnier connaît son domaine d'excellence. Un sophiste ne le connaît pas. Il y a donc, à cet égard, une sorte... L'excellence dont se prévaut le sophiste ou que les disciples de Protagoras vantent quand ils parlent de leur maître est une excellence imaginaire, est une excellence illusoire. Ils excellent à duper, ils excellent à tromper. On pourrait dire de la même manière qu'il y a des peintres qui sont excellents. Or, dans le livre 10, et nous le verrons probablement dimanche prochain, dans le livre 10 de la République, le propos de Platon est d'expliquer que le peintre est à 3 degrés de la vérité puisqu'il imite l'imitation que l'ouvrier lui-même a produite de l'idée du lit. Par exemple, quand il peint un lit, si vous peignez un lit, vous êtes à 3 degrés de la vérité puisque vous êtes dans l'imitation. L'excellence est ici contredite ou contrariée par le fait qu'elle n'est pas corrélée à une fonction précise. Elle n'est qu'une fonction mimétique. Alors, exceller à contrefaire toute chose, ça n'est pas être dans l'excellence. Il y a comme ça, dans les personnages de fiction, parmi les super-héros, il y a un personnage récurrent qu'on appelle le copycat. Et le copycat, c'est l'être qui n'a pas de savoir propre, mais qui est capable, dès qu'il voit quelque chose, d'endosser le rôle de celui qu'il a vu. À la façon du film, vous savez, avec DiCaprio et Tom Hanks, Catch Me If You Can, Attrape-moi si tu peux, où le type a toutes les identités parce que c'est un caméléon. C'est le caméléon, le copycat, le sophiste aussi, en un sens.
Zelig aussi.
Zelig de Woody Allen, c'est celui qui endosse l'identité de son interlocuteur jusqu'au jour où Mia Farrow, sa psy, lui dit que... elle souffre d'une maladie, puisqu'évidemment, comme il est en analyse chez Mia Farrow, il est lui-même analyste, puisqu'elle est analyste et il l'a sous les yeux. Et donc il est analyste, par conséquent, les séances où Zelig va en analyse sont des séances où Zelig s'assoit sur le fauteuil et où c'est Mia Farrow qui s'allonge. Enfin, je veux dire, évidemment, il inverse les rôles, puisqu'il imite la personne qu'il a en face de lui. Et puis, un jour, Mia Farrow lui dit « Écoutez, j'ai un souci, je vous écoute », dit Zelig, qui se prend donc pour le docteur de son docteur. « Je vous écoute », et elle lui dit « je me prends toujours pour la personne que j'ai en face de moi ». Et du coup, comme il a quelqu'un en face de lui qui se prend pour la personne qu'il a en face de lui, il va faire comme la personne qui est en face de lui et se prendre lui-même pour la personne qu'il a en face de lui. Et c'est ainsi qu'il guérit. Mais c'est shakespearien, Zelig. C'est comme la folie du roi Georges. Le roi Georges guérit de sa folie en lisant du Shakespeare dans lequel il interprète le rôle d'un fou. Il faut interpréter le rôle d'un fou pour sortir du rôle du fou. Mais ceci nous emmène un peu loin. Mais en même temps, c'est vrai que le sophiste, voyez, juste ce point-là, c'est fou de voir comme le sophiste en même temps ressemble à Socrate. comme Socrate pense contre lui-même quand il pense contre les sophistes. Parce que fait Socrate? Socrate lui-même dit qu'il ne sait rien. Sauf que Socrate, c'est l'amant de la vérité. Donc Socrate n'a pas fait son deuil de la vérité. Mais cette différence cardinale mise de côté, il y a entre Socrate et les sophistes beaucoup plus de points communs que d'adversité. Ce sont deux rhéteurs extraordinaires.
Et pour rester un petit peu sur cette question de... d'être ce qu'on est et d'être à sa place, justement pour le philosophe, on ne naît pas philosophe. Enfin, on devient philosophe, c'est quelque chose qui... Donc, c'est pas une question d'être, c'est plutôt justement dans le devenir, non?
Alors,
tout le monde peut être philosophe, non?
Là encore, je vous renvoie, Paola, à la discussion qu'on avait eue et au Thé et Tête lui-même. Pourquoi je vous renvoie au Thé et Tête, là?
Pour justement, Thé et Tête qui est en... un Socrate en devenir. Hein.
Exactement. À la fin du Thé et Tête, ce dialogue en miroir, où Socrate se voit lui-même jeune, et où Thé et Tête aide Socrate à accoucher lui-même de lui-même, où il y a une sorte d'inversion des rôles, un peu comme dans Zélig, où c'est Thé et Tête qui contraint Socrate, puisque c'est le dialogue où Socrate se raconte le plus, qui contraint Socrate à dire ce que faisait sa mère, à expliquer qu'il fait le même métier, à parler de la condition du philosophe, etc., à faire un portrait de lui, comme il y a dans le Gorgias. Je veux dire... Socrate accouche aussi dans le Thé et Tête. Il accouche d'une définition de lui-même comme étant incapable d'accoucher. Bon, mais enfin, il accouche quand même. Et Thé et Tête y parvient parce qu'il a un naturel philosophe. L'expression est dans La République et ça a fait le titre du très beau livre d'ailleurs de Monique Dixot. Il a un naturel philosophe. Il est sauvable, Thé et Tête. Il porte en lui les germes d'un savoir possible, d'une connaissance possible, d'une philosophie, de la philosophie. Mais c'est la conclusion un peu pessimiste du Thé et Tête où Socrate dit il y en a qui sont capables et puis il y en a ça sert à rien, il y en a c'est des têtes de pioche et on peut rien faire. Bon, or dans le Ménon, dialogue que Platon a écrit un peu plus tôt, dans le Ménon, Socrate pose comme seule condition à l'apprentissage de la philosophie, c'est-à-dire à la découverte qu'on porte en soi un savoir qu'on ne veut pas connaître et donc à cette maïeutique philosophique qui nous fait savoir ce qu'on sait déjà mais qu'on ne veut pas savoir. Le Ménon, le dialogue intitulé Le Ménon, Socrate, dans ce dialogue, Socrate se donne pour interlocuteur à un moment un esclave. C'est-à-dire qu'il va chercher très loin, dans l'inculture, dans l'ignorance. La seule condition qu'il pose, c'est que l'esclave parle grec. Parce que sinon, la maïeutique, ça ne marche pas. Il faut quand même que voilà, à défaut de ses organes, si vous voulez, que la langue soit la même. Bien. Mais cette condition mise de côté, n'importe qui peut faire de la philosophie. Et on a chez Platon une oscillation entre la quête d'excellents garçons, Charmide, Criton, Phédon, Glaucon, Agathon, Alcibiade. Bon, la recherche d'excellents garçons de bonne qualité qu'on va pouvoir bien faire accoucher d'eux-mêmes. Et le sentiment que la philosophie s'enseigne à tous, ou peut s'enseigner à tous, et que nous sommes tous dotés d'un naturel philosophe. Il y a une ambivalence dans la pensée de Platon là-dessus. Et cette ambivalence, que voulez-vous, elle est répartie dans les textes. Ça change d'un texte à l'autre. Mais d'où la pertinence, je trouve, de la question que vous posez.
Alors, revenons-en un petit peu, si on a le temps, à l'anneau de Cigès, de Gigès, pardon, décidément.
C'est intéressant ce lapsus, hein, l'anneau de Cigès.
Oui, je ne sais pas pourquoi.
Bon, allez-y.
Ça doit être Sisyphe qui
oui, persiste. C'est Sisyphe. Allez-y.
Quelle réponse Socrate peut apporter au dilemme dans lequel le place Glaucon, justement sur l'invisibilité, etc., savoir si... la justice n'est qu'une hypocrisie sociale ou si elle est quelque chose un souverain bien qu'on peut désirer.
C'est pas seulement la justice comme hypocrisie sociale.
Non, oui, j'ai
pas
simplifié,
seulement.
Oui.
Oui, parce que et voyez comme la simplification peut être falsifiante. Pardonnez-moi, mais c'est pas seulement la justice comme hypocrisie sociale, Paola. C'est autre chose. C'est au fond, c'est la même question que dans le Phédon ou que dans le Gorgias. Est-il plus avantageux de vivre selon l'injustice ou selon la justice? Nos auditeurs ont vu Match Point de Woody Allen. Est-il plus avantageux?
Il est question d'un anneau aussi, tiens, c'est marrant.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Il est question d'un anneau puisque c'est du côté du rebord qui empêche de tomber dans le fleuve. C'est du côté du parapet. Enfin. Le fait d'être pris pour le meurtrier dépend du côté du parapet où l'anneau va tomber. Tout à fait. Et il tombe du bon ou du mauvais côté. selon que l'on préfère l'injustice ou la justice. Pour un partisan de l'injustice, Thrasymaque ou bien Glaucon ici dans le rôle provisoire qu'il se donne, pour un partisan de l'injustice, il est avantageux et il faut se réjouir pour le meurtrier de sa maîtresse enceinte de l'enfant qu'elle porte de lui et de sa voisine parce qu'il la croise en même temps, c'est Raskolnikov. Hein. Il est avantageux pour cet homme-là de n'avoir pas été pris. Car maintenant, il va pouvoir mener grand train dans son mariage, être heureux dans son mariage et faire fortune en récupérant la dot du mariage et le blé du père, au fond. Du point de vue de Socrate, le type en question il eût été préférable pour lui d'être pris, de se faire prendre. D'ailleurs, lui-même reconnaît, quand il discute avec les fantômes de ses victimes, lui-même reconnaît qu'il eût été peut-être plus juste qu'il soit pris, mais il ne dit pas plus désirable. Il n'arrive pas à le souhaiter pour lui-même. Et c'est intéressant, vous avez dans Rome, la série Rome, un personnage comme ça qui est la maîtresse d'un des deux légionnaires. Et elle est très amoureuse de lui et le légionnaire en question est marié. Et il est marié avec une femme qui est enceinte de lui. Et la future maîtresse du type en question met du poison dans le verre d'eau de sa femme. La femme meurt dans des souffrances atroces et pour consoler le type en question. Enfin, elle s'offre ensuite au veuf comme un lot de consolation et le veuf, qui est moins amoureux de cette femme-là que de la précédente, l'accepte puisque, voilà, il la trouve jolie malgré tout et donc ils font un bout de chemin ensemble jusqu'au jour où elle-même se voit blessée au cours d'une bagarre et se retrouve sur son lit de mort et refuse d'entrer dans le royaume des ombres avec un mensonge en bandoulière. Et donc, dit à l'homme qu'elle aime, tu sais, c'est moi qui ai tué ta femme. Et le même homme qui posait sur elle un regard énamouré et navré de voir encore une femme qu'il aime mourir, soudain, en un instant, l'acteur est formidable, le regard mute et le type l'étrangle lentement en espérant la faire souffrir le plus possible. Et il la jette dans un caniveau, c'est-à-dire qu'il ne lui rend pas les hommages funéraires, enfin un caniveau, il n'y a pas de caniveau à l'époque, mais il la jette dans une mare, il ne lui rend pas les hommages funéraires et en espérant qu'elle croupisse à jamais en enfer. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est le fait qu'avant de mourir, c'est comme Raskolnikov, le fait qu'avant de mourir, cette femme ait éprouvé le besoin de lui dire, avant d'entrer dans le royaume des ombres, elle ait éprouvé le besoin de lui dire qui elle était vraiment, ou ce qu'elle avait vraiment fait. Je ne sais pas si c'est dire ce qu'on est que de dire ce qu'on a fait, du point de vue de Platon, pas exactement, mais enfin, elle est celle qui le lui dit. Le besoin qu'elle éprouve de le lui dire est une façon de répondre à l'hypothèse implicitement défendue dans le Gigès, à savoir, dans le mythe de Gigès, à savoir que vaut mieux pas se faire prendre. Vaut mieux pas se faire prendre. Quand on est invisible et qu'on n'en profite pas, eh ben, comme dirait Didier Super, on est con.
Alors cette chanson... c'est une chanson pour dire que quand on a des copains ou même des super amis, nos meilleurs amis qui sont dans la merde, et ben la meilleure façon de les aider, c'est de les laisser le nez dans leur merde. Ok, parce que comme ça ils apprennent à pas toujours compter sur les autres pour se démerder. Sauf que moi Didier Super, des fois, et ben c'est plus fort que moi. Quand je trouve qu'ils sont cons, et ben je leur dis et j'espère que ça les aide un peu. T'as commandé un steak frites alors que t'aimes pas les frites et en plus t'es végétarien. Eh ben t'es con. Merci. Eh ben t'es con. La suite. T'es resté honnête avec les gens alors que t'es le seul garagiste à 30 bornes à la ronde. Eh ben t'es con. C'est ça. Eh ben t'es con. Ok, on y va. Tu préfères.
Le Gai Savoir, une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann, vous parle de la République de Platon aujourd'hui. Et si tu ne l'écoutes pas...
Eh ben t'es con. Et plus fort. Et toi, Johnny Hallyday, tu t'es jamais demandé pourquoi ton prénom c'est devenu une expression. Eh ben t'es con. Et Johnny, eh ben t'es con. Et t'es plus que con, t'as gros Johnny.
Okay. Rester honnête quand on peut se donner les moyens d'être malhonnête et que personne va nous en vouloir.
C'est ça l'enjeu.
Est-ce que c'est être con, comme dit Didier Super, ou est-ce que c'est être incorruptible ? Quel est le pas à franchir à partir de quand on est con et quand est-ce qu'on est honnête, incorruptible ?
Alors voilà, c'est ça la question. Voilà. Est-ce que quand on est honnête, alors qu'on peut ne pas l'être, on est con? Ou est-ce qu'on est incorruptible? Est-ce qu'on mène une vie bonne ou est-ce qu'on mène une vie conne? Quand on est honnête, alors qu'on pourrait ne pas l'être. Au fond, c'est ça l'enjeu de Gigès. Et d'une certaine manière, les mannes de Platon me pardonnent de réduire son texte à ça, c'est l'enjeu de toute la République. C'est quand même ça, en partie en tout cas. Et d'ailleurs, on retrouve, j'ai dit tout à l'heure que l'expression de naturel philosophe s'est trouvée dans le livre 4, c'est pas vrai, c'est dans le livre 2. Fusei philosophus, la nature de philosophe, le naturel philosophique. L'idée au fond qu'il y a une nature, alors qu'elle soit philosophique ou pas, qu'elle soit bonne, qu'elle soit philosophique, chez Platon c'est presque synonyme, ça l'est carrément d'ailleurs, l'idée qu'il y ait une nature, à laquelle, au fond, s'opposeraient des déterminations contingentes qui viendraient la contrarier sans la détruire, sans la réduire, qui viendraient lui créer des inconvénients sans pour autant convaincre celui qui est juste de cesser de l'être. Cette idée-là, c'est une idée qui est essentielle. C'est l'idée sur laquelle Platon ne peut pas céder, si vous voulez. Mais vous parlez des incorruptibles. Dans les périodes de décadence, comme on dit, ou dans les périodes de transition dans les sociétés, par exemple sous la Prohibition, au moment d'Al Capone, Al Capone fait fortune grâce à la Prohibition, et il y a, contre Al Capone, donc à Chicago, un groupe d'incorruptibles, ce qu'on appelle les incorruptibles, Eliot Ness, tout le monde connaît Eliot Ness, c'est un groupe d'incorruptibles, de gens parfaitement incorruptibles. La même histoire se retrouve avec Mickey Cohen, mais cette fois-ci c'est pas à Chicago, c'est à San Francisco. Vous avez vu Gangster Squad ?
Non, malheureusement.
Ah oui, mais ça c'est vraiment un bon film pour le coup. Gangster Squad est un très très bon film dans lequel Sean Penn incarne à merveille, je dois dire, vraiment en digne héritier de Robert De Niro qu'il peut être parfois, incarne donc Mickey Cohen, qui est un petit juif qui fait fortune dans le banditisme, le racket, la prostitution, la drogue, et qui prend le pouvoir en Californie, c'est-à-dire à San Francisco. Et il trouve face à lui... D'abord, il rentre comme dans du beurre dans la police locale, qu'il corrompt allègrement, sauf qu'il y a quelques incorruptibles, a bunch of free guys, qui ne se laissent pas faire, et qui alors surtout, à un moment, fait quelque chose d'extraordinaire. Enfin, le groupe des incorruptibles, ces gens-là font quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils entrent dans une sorte de boîte de nuit qui appartient à Mickey Cohen, ils cassent tout. Ils cassent tout, c'est-à-dire qu'ils prennent les méthodes du voyou, donc on pourrait considérer qu'ils sont contaminés par celui qu'ils combattent en adoptant ces méthodes, mais ils arrivent dans l'arrière-boutique et là ils découvrent une machine à faire du fric, à recueillir des paris ou je ne sais pas quoi, bref, avec une table au milieu avec des millions de dollars sur cette table. Et que font-ils? Ils brûlent l'argent. Et dans la mythologie hollywoodienne, l'autre à brûler l'argent, c'est le Joker, c'est l'ennemi de Batman. Et on retrouve cette ambivalence du début, si vous voulez, autour du fait de désirer quelque chose pour soi-même, qui peut être pour le pire le désir de l'anneau, c'est-à-dire un désir de pouvoir dont on est l'esclave, ou bien le souverain bien. Dans le fait de brûler l'argent, ça peut être le Joker qui brûle l'argent, parce que le Joker est un être tout fait de mort et qui ne veut que tuer, qui ne veut que détruire et créer du chaos. Ou alors ça peut être brûler l'argent parce que c'est l'argent de la mafia et qu'il faut bien que 5 humains sur cette terre s'intéresse à la vertu avant de s'intéresser à l'argent. Écoutez Sean Penn, justement, Mickey Cohen, réagir à ce crime, entre guillemets.
C'est des poulets. Le chef Parker me les a mis sur le dos. J'en ai ma claque de cet ivrogne sadique qui brandit sa Bible à tout bout de champ. Il est fini.
On n'avait encore jamais eu ce genre de problème.
Fais-moi confiance, Carl. J'ai graissé la patte à suffisamment de poulets, je sais de quoi je parle. Ces gars-là, ils sont pas comme les autres. C'est des têtes de lard, le fric les intéresse pas. Un flic qui est pas à vendre, c'est comme un chien qu'à la rage, on peut pas le guérir. Faut juste qu'on la batte. C'est simple, il y a un mouchard. Il y a quelqu'un qui m'a balancé! Il y a des oreilles dans cette foutue baraque! Trouvez!
puisque c'est une émission tout en...
Il n'est pas content. Hein.
Ah non, mais puisque c'est une émission tout en référence, permettez-moi de faire allusion aussi au Loup de Wall Street, parce qu'à un moment, c'est la même chose. Il y a un flic qui est incorruptible. C'est celui qu'on envoie pour parler avec Jordan Belfort. Et donc, Leonardo DiCaprio essaye de le corrompre, etc., lui graisser la patte. Hein.
Et le type lui dit, mais vous essayez de me corrompre. Légalement, non, répond DiCaprio. Et le type s'en va et DiCaprio lui jette son homard à la figure en lui disant de toute façon, dans une minute, il y a deux putes qui vont venir me lécher le caviar sur les couilles. C'est une citation, c'est du Scorsese dans le texte, on a le droit de le citer. Tout va bien, messieurs du CSA, bonjour. Ce qui est intéressant dans le monologue de Sean Penn, de Mickey Cohen, c'est qu'il dit, c'est comme des chiens enragés, on ne peut pas les guérir. On ne peut pas les guérir, ça veut dire on ne peut pas les corrompre. Voyez comme il est essentiel en philosophie. Bon, on a une heure pour parler du livre 2 de la République, je veux dire. C'est comme traverser un désert en tongs. Ça n'a pas de sens, c'est pas possible. Mais on peut en donner un goût, ou en tout cas un petit aperçu, une esquisse d'aperçu. Et puis surtout, un conseil. Il est essentiel en philosophie de rester indécis. Il ne faut pas trancher ce débat. Parce qu'au fond, derrière cette querelle d'arguments, les arguments savants développés par les partisans de l'idée selon laquelle il vaut mieux jouir de l'injustice que se faire prendre, il vaut mieux commettre une injustice que la subir, et les arguments de Socrate qui considèrent qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre, derrière ces arguments, il y a des vies. Il y a des existences qui viennent illustrer cela. Alors, il y a l'histoire de Gigès, il y a l'histoire de Frodon qui finit par tomber amoureux de l'anneau, il y a l'histoire de Gollum qui est dévoré par l'anneau. Tout cela donne raison à la thèse selon laquelle il vaut mieux commettre l'injustice que la subir, parce qu'au fond, n'est juste que celui que la vie n'a pas contraint à l'injustice. Mais de l'autre côté, vous avez ces incorruptibles comme des chiens enragés qu'on ne peut pas guérir, qui ne voient aucune raison, étant donné qu'ils vont mourir, de mourir riches, et qui préfèrent, tant qu'à faire, puisque la vie est provisoire et puisque ce monde est gangréné, de ne pas ajouter un peu de gangrène, de ne pas eux-mêmes verser dans le crime, de ne pas céder à la facilité, et d'opposer à un mafieux une probité et une honnêteté absolue, dont le mafieux en question ne sait pas que faire, parce que dans son manuel des convenances, il n'y a pas écrit que l'humain n'est pas corruptible.
Mais voilà, là on touche à la fin de l'émission, mais ça pose quand même une question, c'est celle de la récompense. Est-ce qu'ils font ça juste pour avoir une vie bonne, ou est-ce qu'ils font ça? Et là on traverse toute la République et on arrive au livre 10 et au mythe d'Er le Pamphylien. Parce qu'il y a une résurrection, est-ce qu'il y a une vie bonne qui en attend une autre, etc.
L'objet, évidemment, pour Platon, est de penser la justice séparément de la récompense, ou de considérer que la récompense peut venir, qu'elle est bienvenue, mais qu'elle est seconde, qu'elle est secondaire, un peu comme pour Spinoza, réduire nos appétits lubriques vient après le fait d'accéder à la vertu. Ça n'est pas en réduisant la lubricité qu'on parvient à la vertu, c'est en parvenant à la vertu qu'on réduit la lubricité. Donc, naturellement, et Spinoza le dit en déconstruisant, c'est la fin de l'éthique, l'idée même de récompense ou de châtiment, en expliquant qu'une vertu qui attend une récompense ou qui redoute un châtiment n'est pas une vertu, puisque s'il y avait ni récompense ni châtiment, le vertueux se conduirait mal. Donc c'est exactement la même problématique, pour une fois, chez Platon et chez Spinoza. Mais ce qui est intéressant chez Platon, c'est qu'il est également celui qui dit que si on se conduit bien dans le temps de la vie, on est récompensé après. Et il faut comprendre, il faut ici établir un système de nuances, un régime de nuances, entre la critique d'un comportement qu'on ferait en vue d'une récompense, qui n'est donc pas juste, mais dictée par la perspective d'une récompense. C'est le même homme qui, devenant invisible, se conduit comme Gigès. Et, d'un autre côté, le fait que, quand on se conduit justement sans viser une récompense, eh bien, la récompense vient d'elle-même. Et c'est cette nuance sur laquelle on reviendra notamment la semaine prochaine. Merci Paola, merci à tous. L'émission touche à son terme déjà. Merci à Georges Clès, évidemment, à François Connac, notre réalisateur, avec aujourd'hui Cédric Châtelus à la technique. Cette émission, vous la retrouvez sur Internet quand vous voulez, à la page du Gai Savoir, où vous attendent d'ailleurs toutes les autres émissions, une page où vous attendent aussi bibliographie, téléchargement et écoute en ligne. On se retrouve dimanche prochain dans le Gai Savoir de 16h à 17h pour évoquer cette fois-ci le livre 10 de la République dans une émission au cours de laquelle, vous verrez, nous aurons les yeux plus gros que le ventre. D'ici là, si la philosophie vous manque, écoutez et téléchargez les nouveaux chemins de la connaissance d'Adèle Van Rett qui tous les jours vous donne rendez-vous de 10h à 11h du lundi au vendredi sur France Culture. France Culture, 17h dans un instant, du côté de chez soi.